Notre prochaine conférencière, écoutez, je crois que vous l'avez reconnue. La plupart d'entre nous dans la salle se passeraient bien de la présentation de notre présidente trésorière pendant 14 ans qu'elle a été à la tête de notre syndicat. Mais aussi le temps file et il y a des militantes ici qui ont jamais eu la chance de se la faire présenter. Alors, je veux juste rappeler quelques petites choses au sujet de Judy Darcy. Elle a été militante à partir de des années où j'avais presque encore une couche aux fesses. Et c'est pas pour me vanter de mon âge, mais vraiment pour saluer sa grande expérience. Je suis sûre qu'elle va me rendre l'appareil. Alors, Judy, merci beaucoup pour toutes tes années et je pense que simplement je vous passe la parole, Judy.
She says she was in diapers. I was. Oh yeah. Oui, elle a dit qu'elle était encore en couche. Ben oui, je l'ai même bercée peut-être. Bon, enfin, c'est incroyable de se retrouver ici.
Ici avec vous aujourd'hui. This has been an.
Alors, quelle conférence? C'est une conférence du tonnerre. Et ça me remplit d'émotion là, de vous parler. Et les gens disent, mon Dieu, comment ça se fait que tu es nerveuse? Ça fait, t'as pris la parole des dizaines de milliers de fois dans ta vie. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est la première fois que je m'adresse à un groupe, à une conférence du SFP depuis que je suis, disons, retirée il y a 5 ans et demi. Alors, c'est très émouvant de me retrouver ici dans cette salle parce que ça me rappelle toutes sortes de souvenirs de confrères, consoeurs avec lesquels on a mené de l'avant toutes sortes de luttes. Alors vraiment, ça m'enthousiasme beaucoup d'être parmi vous et de pouvoir vous parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement. Ces souvenirs, elle a parlé de l'époque où elle était aux couches. Eh bien, mes souvenirs remontent au premier congrès national du SCFP qui avait lieu ici même, dans cet hôtel, en 1973. Ah, oh oui, tout le monde a fait « Ah, oh, c'est pas vrai, vous êtes supposé faire ça, non? » Et alors, mais quand j'ai commencé, j'aimerais vous dire que je suis devenue militante. Le travail effectué par les enfants mineurs était encore en vigueur. Mais il faut pas rire parce que maintenant, c'est redevenu en vigueur en Colombie-Britannique. Alors, que je réfléchis aux luttes qu'ont menées les groupes de femmes et les autres groupes syndicaux tout au long des années 70, 80, 90 et jusqu'à ce jour. Alors que j'ai écouté ces femmes qui ont pris la parole le premier soir, il y a toutes sortes d'idées qui me sont venues en tête. C'est tellement évident que chaque génération de femmes doit prendre en main les choses, elles doivent les défendre. Mais c'est aussi évident, alors que j'écoute tout ça, qu'il y a des leçons à tirer de notre histoire et qu'il y a des principes directeurs, des espèces d'éléments qui peuvent favoriser la réussite. On m'a donc demandé de vous parler de ça aujourd'hui. Je parlerai donc d'abord du leadership des femmes et la façon dont on fait dans notre syndicat, dans le mouvement syndical, pour favoriser ce leadership chez les femmes. Et ces conférencières là qu'on a entendues, là, c'était incroyable ce qu'on a entendu là. Alors que j'écoutais ces femmes, ça me faisait penser aux autres congrès nationaux où on devait lutter pour que des femmes soient élues au conseil, où on voulait aussi ensuite, s'assurer qu'il y a des postes pour les aborigènes, pour les gens de couleur. Et je me souviens d'être à ces congrès où les délégués disaient, on n'a pas besoin de choisir, de dire, ça prend un poste désigné. Non, ça c'est discriminatoire. Et si une femme peut pas être élue en fonction de ses compétences, ça devrait pas être là du tout. Et moi, j'aimerais que les gens qui ont dit ce genre de choses-là, j'aurais aimé qu'ils soient dans la salle l'autre soir pour entendre toutes ces femmes, parce qu'on a des femmes brillantes qui peuvent occuper toutes sortes de postes de dirigeants, de dirigeantes, si elles le souhaitent. Et il y a une chose qui m'a frappée lorsque j'ai écouté les femmes parler depuis que je suis arrivée ici. C'est que le leadership des femmes ne se développe pas de la même manière que le leadership des hommes. Le leadership des femmes, ça se développe par le biais de luttes, par le fait qu'on se tient debout pour défendre nos confrères, consœurs. Ça se développe en passant à l'action, en formant, en informant les autres. On n'a pas comme les hommes ces réseaux de gars, de corps de métier qui existent depuis fort longtemps. Mais la façon dont on a amélioré notre estime de nous-mêmes, c'est comme ça, c'est en menant des luttes. Lorsqu'on a mené des luttes pour l'équité en matière d'emploi dans les années 80, que ce soit pour faire changer la loi, les programmes de paiement, que ce soit pour faire des inscriptions dans nos conventions collectives, les femmes ont énormément appris. Mais aussi lorsque les secrétaires des commissions scolaires de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard, sont arrivées à avoir l'égalité avec les concierges des écoles, elles marchaient de façon beaucoup plus fière. Elles se disaient, ben oui, on est égales. On l'a reconnu officiellement. Et moi, je parlais avec Betty Jean Stevenson de ces choses-là lorsqu'au début des années 90, en Nouvelle-Écosse, il y avait un groupe de travail qui s'occupait des violences contre les femmes dans les foyers de soins. Et là, ces femmes-là ont dit, la violence, ça fait pas partie de notre travail. Il faut lutter contre ça. Et en faisant ça, elles ont progressé. Et au Québec aussi, lorsque les femmes qui travaillent à la ville de Montréal, dans les sections locales, ont lutté pour avoir accès à des emplois non traditionnels, ça s'est produit tout au long de notre histoire. On a énormément d'exemples pour augmenter les salaires des femmes, que ce soit les années 2000, 2002. Lorsque les sténographes du tribunal de Nouveau-Brunswick ont dit il faut augmenter les salaires des femmes, c'est la même chose pour les employés de soutien à Toronto, pour les employés à temps partiel. Et on le voit encore dans notre propre syndicat, notre personnel HIE, lorsqu'ils siègent à nos comités de négociation qui sont là pour lutter pour leurs collègues. Alors, et c'est de cette façon que les femmes ont obtenu des postes élus, comme Grace Hartman, qui était élue pour la première fois, c'est la première, en 1975, à être responsable de syndicat international. Elle a commencé à défendre les travailleuses de bureaux de North York et elle est devenue ensuite la première dirigeante d'un syndicat au Canada. Elle a aiguisé ses aptitudes en menant toutes ses luttes. Et moi, j'ai commencé dans le mouvement féministe. Avant de me joindre au mouvement syndical, je défendais les travailleuses immigrantes. J'ai lutté contre le droit en matière de reproduction. J'ai essayé de manifester devant des concours de beauté. Et ensuite, j'ai pris part au mouvement syndical et j'ai participé à une première grève en 1975. Et je crois fermement que le leadership des femmes, ce n'est pas de travailler chacun de son côté. On n'est pas là juste pour se défendre toute seule. Non, on veut ouvrir la porte aux autres femmes. Et il faut donc pouvoir aider toutes les femmes. Et ça, ça fait partie intégrante du développement des femmes qui luttent pour l'équité dans les négociations. On a tous porté des affiches où disait « La place d'une femme est au syndicat ». Mais là, on a besoin d'avoir un nouveau slogan. La place des femmes, c'est lors des négociations collectives, que ce soit dans le domaine municipal, fédéral, provincial ou autre. C'est primordial pour mener plus en avant nos dossiers en matière d'équité et pour vraiment encore favoriser le pouvoir des femmes à tous les niveaux du syndicat. Et vous savez que les femmes occupent toutes sortes de rôles dans les sections locales. Elles siègent à l'exécutif, elles siègent à toutes sortes de comités, mais il semble que d'être présentes aux conventions collectives, on ne sait pas, mais ça semble être plutôt des postes sont occupés par des hommes, que ce soit pour le syndicat des hôpitaux, où on trouve 85% de femmes qui travaillent là, mais lorsqu'on va aux conférences, où on élit le comité de négociation, vous avez 85% de femmes qui travaillent dans ces hôpitaux, mais c'est parce que tous les hommes qui vont à la table de négociation. Et c'est la même chose pour les corps de métier, pour les gens qui travaillent dans les bureaux, qui sont beaucoup des femmes. Elles sont sous-représentées à la table de négociation. C'est beaucoup des hommes. Mais avec ce qui s'est fait avec le HEU, avec les dernières rondes de négociations collectives, on a aussi beaucoup appris, et il ne fait aucun doute dans mon esprit, qu'ils vont revenir sur ces questions-là en 2010. Ils vont revenir sur cette question de représentativité des femmes à la table de négociation. Il y a combien de femmes ici qui siègent dans des sections locales ou des comités Combien de femmes siègent à des comités de négociation? Oh! Ah, ben ça va pas mal bien. Ça va bien. C'est exceptionnel. Alors, vous savez ce qu'il nous reste à faire, confrères, consoeurs. Et alors qu'on travaille pour se faire élire aux tables de négociation, il faut écraser les stéréotypes qui décrivent ce que ça prend pour être une bonne négociatrice. Et pour être une bonne négociatrice, il faut pas juste être capable de sacrer comme un chartier ou quelle est la force de votre poing quand vous le lancez sur la table ou à quelle hauteur vous pouvez gonfler vos poumons pour montrer que vous êtes en maudit, parce qu'on est capable de faire ça aussi. Non, ce que ça prend, tout d'abord, pour être dans un comité de négociation, c'est pas aussi un test d'endurance, à savoir pendant combien d'heures vous pouvez continuer de parler sans dormir, sans manger. Non, il faudrait que ce soit, quand on est en négociation quand même, il faut qu'on puisse continuer quand même d'avoir une vie de famille plus ou moins normale.
Car être bon négociateur, ça veut dire tout d'abord, être bon négociateur, c'est écouter, c'est créer un consensus, c'est résoudre des problèmes, c'est engager des membres, et c'est penser stratégiquement et concernant. Nous savons faire tout ça, n'est-ce pas? Nous excellons à tout cela. Deuxième ingrédient pour la recette de la réussite, et je vais reprendre un peu ce que Armin a dit. Deuxième ingrédient de la recette, c'est d'avoir des pensées stratégiques et être intelligent à la lutte. Et il faut être intelligent dans la lutte pour l'égalité. C'est important dans tout ce qu'on fait, mais c'est encore plus important à l'heure actuelle, étant donné la conjoncture économique du Canada. Le premier soir du congrès, il y avait quelques conférencières qui ont parlé avec éloquence de ces moments très difficiles. L'un après l'autre a dit clairement que nous n'avons pas créé cette crise et qu'on ne devrait pas nous faire payer la remède. Il y en a d'autres qui ont dit que les employeurs et les gouvernements disent « Ah, il n'y a pas d'argent pour l'égalité maintenant. Wow, les moteurs. » Et ils ne voulaient même pas payer l'argent pendant des bonnes années. Alors pourquoi accepter ces excuses aujourd'hui? Et je suis d'accord avec ces sentiments. Nous ne pourrons pas permettre, nous ne devrons pas permettre, et nous ne permettrons pas à cette crise économique de permettre aux employeurs ou aux syndicats de faire des excuses pour dire « Ah ben, les temps sont trop difficiles, on ne peut pas lutter pour l'égalité. » Cependant, les gains d'égalité que nous choisissons et la lutte pour ces gains doit tenir compte de la conjoncture actuelle, de cette crise économique qui sera peut-être la pire de notre vivant, de notre génération ou de nos générations plurielles, quoi. Mais nous avons toujours reconnu dans la lutte pour les bons salaires décents pour des femmes qu'il n'y a pas une seule façon d'avoir gain de cause. On a eu gain de cause pour les salaires des femmes de plusieurs façons, en augmentant les salaires en général, en ayant des lois pour l'équité salariale, en négociant la table de négociation. Nous l'avons fait par des plans d'évaluation d'emploi. Donc, il y a toute une variété de façons d'arriver à notre but. Augmentation des régimes de retraite, augmentation des prestations, etc., pour éviter la pauvreté des femmes âgées. Il n'y a pas une seule solution. Il n'y a pas une seule façon d'évoluer. Il y a plusieurs façons de le faire. Je crois ferme qu'il y a encore des bonnes chances. Aline a dit, je pense fermement qu'il y a des chances, des bonnes chances d'avoir des gains d'égalité malgré cette crise économique et qu'il faut saisir ces occasions. Il faut identifier ces occasions. Il faut analyser, il faut penser stratégiquement et il faut faire une lutte intelligente. Et il faut bien sûr préparer le tout. Il faut préparer notre lutte afin d'avoir encore de meilleurs gains à l'avenir en créant des structures de négociation coordonnées, en créant des comités de femmes, en créant des alliances dans la collectivité. Quelles sont ces occasions, ces chances d'avoir gain de cause? Elles sont nombreuses. Il n'y a pas une seule recette. Il y a plusieurs recettes et ça varie de province en province, de secteur en secteur, de section locale à section locale. Et il y aura chez nous en Colombie-Britannique une négociation de secteur public en 2010. Nous n'avons pas encore sondé nos membres, mais je sais très bien ce que nos membres veulent. Premièrement, protéger des bons emplois décents pour appuyer la famille. Sécurité d'emploi, priorité numéro un. Et je vous dis que lors de nos négociations dans le secteur des hôpitaux en Colombie-Britannique, étant donné la victoire de la Cour suprême que nous avons gagnée il y a 2 ans, où on a dit qu'on ne peut pas enlever les droits de négocier la sécurité d'emploi à nos membres, lors de la négociation en 2010, nous ne serons plus à la table des négociations avec une main derrière le dos et la sécurité d'emploi sera sans aucun doute notre priorité. Aussi, protéger nos avantages sociaux. Les gouvernements, les employeurs, comme vous le savez, visent maintenant les avantages. Ils n'ont pas eu gain de cause encore. Il y a, avec la perte des emplois dans les métiers, dans le bâtiment, dans la foresterie, etc., ces avantages sont essentiels pour les familles, non pas pour les femmes nécessairement, mais pour les familles, parce que les hommes sont sans emploi aussi. Et quelles sont les concessions voulues de la part des employeurs? Ils vont essayer de faire la même chose qu'ils ont fait la dernière fois. Il faut pas les perdre. Des avantages souples, des avantages de vitesse, des avantages à la cafétéria. Et ça va être un désastre pour les femmes avec famille qui doivent se prévaloir, qui doivent dépendre de leurs avantages sociaux. Il faut avoir plus d'argent pour la formation professionnelle pour les femmes dans le milieu du travail. C'est critique. La formation professionnelle pour les femmes est essentielle. La dernière fois, on a négocié un fonds de 5 millions de dollars chez nous en Colombie-Britannique, contrôlé par le syndicat, afin de pouvoir former nos membres et mettre à point, mettre à jour leurs compétences. Là, l'employeur et le gouvernement ont décidé qu'il y avait un intérêt en commun avec nous Et notre secrétaire financière, Denise Bernard, m'a dit que d'ici 2010, sur cette période de quatre ans, plus de 1200 membres auraient profité de ces cours de formation professionnelle, l'augmentation des capacités. Et parfois, il s'agit des femmes qui ont un emploi minimal et maintenant, elles peuvent occuper des vrais postes professionnels dans le secteur de la santé. On a parlé de cette entente pour les Autochtones en Saskatchewan. C'est un peu la même chose chez nous, où on veut créer des occasions pour tous les gens à la recherche de l'égalité, pour avoir des postes d'entrée, des emplois d'entrée, de carrière, et pour se parfaire par la suite. Alors nous, en Colombie-Britannique, on est très, très, très passionnés par ces programmes, et nos membres en sont très contents. Ça va être notre priorité. Aussi, à cette question de jongler avec l'écart de travail pour le bien-être de la famille, et il faut trouver une conciliation entre la vie et le travail. Il faut avoir plus de congés syndicaux parce que les femmes sont obligées d'avoir trois fardeaux. La famille, le boulot et le syndicat. La violence au milieu du travail, ça prend de l'ampleur, surtout dans les services sociaux, surtout chez les aînés, les foyers pour personnes aînées. Il y a de moins en moins de permanents, moins en moins d'employés. Et c'est nos employés qui sont victimes de violence dans ces milieux. Nos membres comprennent très bien les raisons de la lutte en 2010 et je suis certain que nous allons réaliser ces vœux. Troisièmement, je veux vous parler de cette question d'augmenter les salaires très bas, des bas salaires des employés à faible revenu. C'est très important pour nous, parmi les syndicats d'employés d'hôpitaux en Colombie-Britannique, nous sommes là pour un deuxième contrat pour nos membres avec Sodexo, Compass et Airmark. Chez vous, les grands trois, c'est General Motors, Ford et Chrysler, mais chez nous, Sodexo, Airmark et Compass sont les grands, les trois grandes, parce que c'est des trois fournisseurs de services les plus importants au monde. Et ces trois-là ont pris en main la privatisation des services publics partout dans le monde. Alors, nous sommes dans la table de négociation avec ces trois. On a mis à pied 9 000 employés du gouvernement de la Colombie-Britannique en 2002, 2003, 2004. La plus importante mise à pied des femmes de l'histoire du Canada. Là, le syndicat des employés d'hôpitaux a décidé que non seulement nous allions lutter devant les tribunaux, que nous allions syndiquer ces travailleuses engagées par ces trois entreprises. Et nous représentons maintenant 96% de ces employés, presque exclusivement des femmes, qui travaillent pour ces trois grandes. Nous avons négocié notre première convention collective il y a 3 ans. À ce moment-là, les salaires étaient de 10 $ de l'heure. La lutte chez Sodexo était très forte, encore avec Aramark. Ensuite, Compass, tout le monde a accepté enfin le règlement et nous avons négocié. Et maintenant, les salaires dans le secteur sont passés de 10 $ de l'heure à 13 $ de l'heure. C'était une grosse augmentation, 30 %. Mais nous savons tous que 13 $ de l'heure, c'est encore la pauvreté, malgré cette augmentation importante. Confrères, consoeurs, à ce moment-là, on a pris la résolution de lutter autrement cette fois-ci, d'initier un salaire décent, une campagne pour un salaire décent, une campagne basée dans la collectivité avant d'aborder la table de négociation. Et c'est déjà chose faite. Je dois vous dire ce matin que je crois ferme que cette question d'augmenter les salaires les plus faibles est effectivement et au fondement, aux assises de l'équité pour notre génération. C'est la seule question d'équité pour notre génération, parce que ces travailleurs et travailleuses à faible revenu, c'est quoi? C'est des femmes de couleur, c'est des immigrantes dans notre province et dans vos provinces aussi, c'est des gens, des autochtones, c'est des gens ayant un handicap, c'est des jeunes, c'est des gens à temps partiel, c'est des occasionnels et c'est des gens très contingentés et ils font un travail essentiel pour nos collectivités. Si on augmente ces faibles salaires, c'est une question de justice sociale, c'est une question de justice économique, mais c'est aussi critique pour nous tous dans notre syndicat, car, comme on l'a déjà dit avec éloquence au début de notre conférence, tant et aussi longtemps qu'on pourra garder dans la pauvreté un groupe de travailleurs dans notre collectivité, c'est une façon de garder tout le monde à bas salaire, à faible salaire. Donc, c'est important pour tout le syndicalisme. C'est important pour tous ceux qui croient qu'il faut lutter contre l'inégalité dans notre société. C'est une lutte, c'est une guerre que les syndicats seuls ne peuvent pas gagner. C'est une guerre que les syndicats seuls ne peuvent pas gagner, je répète. Voilà ce que nous avons décidé de faire chez nous pour mener à bien notre guerre, notre lutte. Le thème de notre campagne, vous l'avez peut-être vu. Nous avons des macarons verts, des t-shirts verts. Le travail devrait vous sortir de la pauvreté et non pas vous mettre dans la pauvreté. Le travail devrait vous sortir de la pauvreté et non pas vous mettre dans la pauvreté. Voilà notre thème. Il y avait deux éléments essentiels à notre campagne. D'abord, créer la force de leadership parmi les travailleurs chez Sodexo, Amark et l'autre, afin de organiser une campagne où les gens pouvaient raconter leur histoire, leurs anecdotes, leur vie. Deuxième élément critique de la campagne, créer des alliances pour avoir un salaire décent, surtout dans les collectivités de la diversité de nos membres. Le but de la campagne est de gêner les responsables gouvernementaux et afin d'adopter une politique où on dit on ne fera pas d'affaires avec un contractuel qui ne paie pas un salaire décent à ses employés. C'est ça le but de notre campagne pour un salaire décent. Et on le dit tout d'abord par le truchement de nos membres qui racontent leurs histoires. On a commencé ça il y a 2 ans. On a créé un atelier pour le leadership et la femme, où les gens ont dit, c'est quoi un salaire décent? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors donc, ils ont affiché ça comme ici, là, c'est sur le mur, sur les bannières. Ensuite, elles ont raconté leur vie, leur histoire, comme celui-ci ou celle-ci. Il y a une femme qui a dit, je me lève le matin, je vais au travail, mes enfants sont toujours au lit. Je finis mon premier emploi, je vais à mon deuxième emploi. Rentrer à la maison, mes enfants sont encore au lit. C'est quoi un salaire décent pour moi? C'est que j'ai l'occasion de voir mes enfants. C'est ça, un salaire décent. Je vois mes enfants. Un confrère, un réfugié de Chili, il y a quelques années, a dit, je ne demande pas beaucoup. Ma fille a un talent de musique musicale épouvantable. Je veux qu'elle soit en mesure de suivre des cours de musique. Pour moi, c'est ça un salaire décent. Des cours de musique pour ma fille. Un autre consoeur de Nanaimo, en Colombie-Britannique, m'a dit, quand je suis au travail, à la fin de mon quart de travail, après le départ de mes collègues de travail, quand on a débrasser les plateaux et des résidents et des patients. S'il reste, je sais pas, quelque chose à boire, quelque chose à manger, un yaourt, un jus d'orange, on les enlève puis on les rapporte à la maison pour nos enfants. Pour moi, un salaire décent pour mes collègues au travail, mes copines de travail, c'est qu'elles seraient en mesure d'acheter de quoi manger pour la famille. Et cette même femme qui racontait cette anecdote, dernièrement, on a rencontré une des commissions de santé, régie de santé, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas les moyens de chauffer ma maison. Je me suis acheté un petit chaufferette électrique et l'hiver, on a eu quand même du froid en Colombie-Britannique, croyez-moi. Alors l'hiver, ma petite chaufferette électrique, je balade la chaufferette d'une pièce à l'autre et quand je me couche la nuit, j'espère qu'il n'y aura pas d'incendie à cause de la chaufferette électrique au cours de la nuit. Un salaire décent pour moi, c'est ça. Avoir le chauffage dans la maison. Voilà des femmes qui travaillent à temps plein dans le secteur de la santé en Colombie-Britannique. Des femmes qui effectivement, sont des pauvres au travail, des travailleuses pauvres. Elles vivent dans une province où le premier ministre adore dire « Nous avons une prospérité incroyable. C'est le meilleur endroit au monde pour vivre. » Je peux vous dire, collègues, que les gens qui travaillent chez Sodexo, Airmark et Compass, ce n'est pas le meilleur endroit au monde pour vivre. Ce sont des travailleurs pauvres, pauvrissimes, et nous avons les pires cas de pauvreté enfantine au Canada. Un enfant sur cinq au Canada, en Colombie-Britannique est pauvre. Un enfant sur cinq, 20% des enfants. Et nous savons que les enfants sont pauvres parce que leurs parents sont pauvres. Et de plus en plus, ces parents comprennent les gens qui travaillent, des travailleurs pauvres. Alors, ces femmes, donc, racontent leur vie, leur histoire. Nous voilà de retour à la table de négociation bientôt. Et notre stratégie de négociation, c'est de représenter, bien sûr, nos arguments, nos raisons, mais aussi de créer de la pression autour des différentes régies de santé pour avoir un salaire décent. Pour aller voir tout le monde, les députés parlementaires des régies. On veut créer des alliances. C'est ça le deuxième élément de notre campagne, créer des alliances, des coalitions. On travaille avec des différentes collectivités de foi. On va dans des mosquées, dans des temples, dans des églises pour trouver du soutien. Dans la collectivité chinoise, philippine, indo-canadienne, où on trouve la majorité de nos membres. On a trouvé du soutien parmi certains employeurs qui sont prêts à appuyer l'idée d'un salaire décent, des conseils de planification sociale, la plus importante institution financière à Vancouver. Alors donc, il y a une certaine vague qui nous suit. Et il faut avoir un salaire décent à ce cycle de négociation. On va donc augmenter les salaires puis avoir aussi un régime de retraite pour la première fois de la vie et des bons avantages sociaux parce que ces femmes-là n'ont même pas de caisse de retraite. Donc, elles vont être des travailleuses pauvres et ensuite elles vont être des retraitées encore plus pauvres. Le travail, on a du pain sur la planche pour avoir des salaires décents pour nos membres. Il y a du pain sur la planche pour avoir un salaire décent dans les services sociaux en Colombie-Britannique, comme pour les services sociaux et les garderies dans d'autres provinces, n'est-ce pas? Dans d'autres provinces au Canada. Nous faisons face, comme vous, à partout, quand on parle avec les responsables, c'est que « Eh bien, c'est pas ma responsabilité. Eh bien, c'est pas ma responsabilité. » Donc, c'est ça qu'on dit à la Régie de la Santé. On dit « Bon, mais c'est ton contractuel de payer un salaire décent. » Les contractuels disent « Non, c'est à la Régie de la Santé de payer. » La Régie de la Santé dit que le gouvernement provincial ne nous donne pas assez d'argent. Le ministre de la Santé dit « Pourquoi tu viens me voir, Judy? » Je dis « Écoute, c'est toi qui voulais faire les PPP. » C'est toi qui voulais faire la sous-traitance, c'est toi qui vas assurer l'argent. Il dit non, c'est aux différentes régies. Les régies disent non, c'est les contractuels. Nous, on dit wow les moteurs, wow les moteurs. Quelqu'un ici est responsable et il faut payer un salaire décent à tout le monde qui travaille dans le domaine de la santé. Et tous ces petits emplois devraient disparaître pour avoir des salaires décents, non seulement en Colombie-Britannique, mais partout au Canada. Et il est trop tôt pour savoir si oui ou non on va réaliser notre vœu d'un salaire décent en 2010. Ultimement, le gouvernement de M. Campbell, où il y a une élection le 12 mai en Colombie-Britannique, doit décider si oui ou non, nous on doit décider si oui ou non on va débrayer, parce que si on débraye, les gens de la Colombie-Britannique vont être obligés de penser à Gordon Campbell qui a mis à pied 9000 employés du secteur de la santé seulement pour voir que la Cour suprême du Canada a dit que le gouvernement n'a pas le droit d'enfreindre aux droits aux travailleurs. Alors, je ne sais pas l'avenir, moi, mais je sais une chose. Nos gains pour avoir un salaire décent pour nos membres seront le résultat direct de trois choses. Tout d'abord, la création de leadership parmi les femmes qui travaillent chez Campus Sodexo Aramark pour que ces femmes-là possèdent le courage nécessaire pour raconter leur vie et leur lutte. Je veux reconnaître des membres qui sont ici. Je vous prie, collègues, copines, de vous lever. Voilà. Deuxième élément clé de tous les gains que nous aurons, c'est l'engagement de notre syndicat, des employés d'hôpitaux, ses leaders, ses militants, pour avoir une tactique stratégique, si vous voulez, pour organiser une telle campagne pour un petit groupe de nos membres. Troisième élément, essentiel à tout prix, sera le soutien, les alliances que l'on crée dans notre collectivité avec des groupes féminins, avec les organismes de foi, avec des organismes d'immigrants, avec des groupes à la recherche d'égalité et parfois avec des employeurs progressistes. Ce sont des alliances et des coalitions que nous voulons toujours nourrir et que nous devrons tous nourrir partout au pays. Ces alliances dans les collectivités de concert avec le mouvement féminin est essentiel pour voir l'équité salariale partout au pays. Les alliances avec des groupes comme Action Travail Femmes, ATF au Québec, étaient essentielles pour avoir accès aux emplois non traditionnels pour les femmes. Et de toute notre histoire, c'est effectivement ces alliances puissantes avec des alliés dans les collectivités qui sont à la recherche d'égalité, qui sont essentielles pour notre réussite. Il ne fait aucun doute, confrères, consoeurs, il ne fait aucun doute pour moi qu'à la longue, non seulement dans le SEH, non seulement au CFP, non seulement au Colombie-Britannique, mais d'une mer à l'autre, d'un côté à l'autre, que la lutte pour l'égalité, pour les plus faibles, les pires rémunérés, pour avoir un salaire décent, si on le fait avec toute l'énergie possible, je suis certaine que nous avons ce qu'il faut pour passer d'un slogan à en faire une réalité et qu'effectivement, le travail va nous sortir de la pauvreté et le travail ne nous mettra pas dans la pauvreté. C'est ça notre défi. Merci, confrères, consoeurs.